Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 10 de la Sainte Sourate Balad. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة صدق الله العلي العظيم.
Non, j'en jure par cette cité. Or, c'est comme citoyen que tu es dans cette cité, et par l'engendreur et ce qui l'engendre. Très certainement, nous avons créé l'homme en lutte. Compte-t-il que nul ne sera capable contre lui? Il dit, « J'ai gaspillé beaucoup de biens. » Compte-t-il que nul ne l'a vu? Ne lui avons-nous pas assigné deux yeux et une langue et deux lèvres, et nous l'avons guidé aux deux voies.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. بسم الله الرحمن الرحیم. Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le jeudi 22 Ordi Behesht, 1401 du calendrier iranien, 12 mai 2022. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information suivi d'un commentaire politique. L'Iran arrête deux ressortissants européens pour fomenter l'insécurité et le chaos. La visite d'État de l'émir du Qatar à Téhéran. Le corps des gardiens de la révolution islamique a attaqué les positions des terroristes dans le nord de l'Irak. Et la rencontre du négociateur en chef iranien avec Enrique Mora. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Jeudi 12 mai, le président iranien Ebrahim Raisi a accueilli l'émir du Qatar, le cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, au complexe présidentiel de Sadabad à Téhéran. Le cheikh Tamim effectue une visite d'État d'une journée dans la capitale iranienne, à la tête d'une délégation politique et économique de haut rang. Les deux hommes tiennent une réunion qui sera suivie d'une conférence de presse. Des rencontres avec d'autres hauts responsables iraniens sont également prévues. Cette visite fait suite à un voyage du président Raisi à Doha il y a 3 mois. Le renforcement des relations bilatérales ainsi que les grands sujets de préoccupation régionaux et internationaux seront au cœur des discussions. Le cheikh Tamim s'était rendu pour la dernière fois à Téhéran en janvier 2020. Le corps des gardiens de la révolution islamique affirme avoir détruit les positions des groupes terroristes opérant dans la région autonome du Kurdistan irakien. Les forces terrestres du corps des gardiens de la révolution islamique ont ciblé les repères des terroristes à Erbil avec des tirs d'artillerie. Pour l'instant, aucun bilan n'a été dressé sur le nombre de victimes et les dégâts. L'opération faisait suite à l'arrestation d'une équipe terroriste qui envisageait de commettre des actes de sabotage dans l'ouest de l'Iran. Un communiqué indique que les aveux des détenus ont conduit à l'opération mercredi matin. L'Iran a à maintes reprises averti la région du Kurdistan irakien qu'il se réservait le droit de mener des frappes contre les groupes terroristes actifs dans la région. En septembre de l'année dernière, des missiles iraniens ont détruit 4 bases de groupes hostiles. Et en mars de cette année, le corps des gardiens de la révolution islamique a tiré une douzaine de missiles balistiques sur ce qu'il a décrit comme une base secrète de l'agence d'espionnage israélienne, le Mossad, à Erbil. Le coordinateur de l'Union européenne pour les pourparlers de Vienne sur la relance de l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien s'est entretenu avec le négociateur en chef iranien. La rencontre entre Enrique Mora et Ali Boredikhani à Téhéran a eu lieu dans le but de donner un nouvel élan pour sauver l'accord multilatéral de 2015 en agonie depuis le retrait des États-Unis en 2018. Les pourparlers entre l'Iran et les autres signataires de l'accord sont au point mort depuis le milieu du mois de mars. Mora a joué un rôle clé en tant qu'intermédiaire entre les États-Unis et l'Iran au cours d'une année de pourparlers à Vienne pour rétablir l'accord abandonné unilatéralement par Donald Trump. Avant son déplacement à Téhéran, Mora a écrit sur Twitter qu'il venait pour travailler à combler les lacunes restantes dans les pourparlers. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré lundi que la visite de Mora montre que les pourparlers progressent toujours sur la bonne voie, mais cela ne signifie pas qu'il arrivera avec un nouveau message, a renchéri le diplomate iranien. Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que les habitants de la région de l'Asie occidentale n'accepteraient jamais la normalisation des relations de leur pays avec le régime israélien terroriste et infanticide. Hossein Amir Abdullahian a tenu ces déclarations à l'occasion d'une rencontre avec le ministre libanais de la Culture, Mohammad Wissam al-Murtada, en visite à Téhéran. Amir Abdullahian a ajouté que la résistance du peuple libanais face aux fréquents actes d'agression d'Israël est un brillant modèle à suivre pour les autres nations de la région. Il a également dit que Téhéran était prêt à renforcer la coopération économique avec Beyrouth malgré les cruelles sanctions occidentales. Al-Murtada a pour sa part déclaré que le Liban aussi était prêt à étendre ses relations avec tous les pays amis de la région, en particulier la République islamique d'Iran. Un service commémoratif officiel a été organisé dans l'enceinte présidentielle de Ramallah en Cisjordanie pour une journaliste palestinienne, un jour après que les forces israéliennes l'ont tué. Une foule immense de personnes en deuil a rendu un dernier hommage ce jeudi matin à Shirin Abu Akleh, célèbre journaliste de la chaîne panarabe qatari Al Jazeera, qui a reçu une balle à la tête par les tireurs d'élite israéliens alors qu'elle couvrait un raid de l'armée israélienne à Jenin mercredi. Jeudi, en fin de matinée, une cérémonie officielle est prévue à Ramallah, en Cisjordanie, au siège de l'autorité autonome palestinienne, en présence du président Mahmoud Abbas et de représentants de la presse, avant ses funérailles vendredi dans une église de la ville sainte de Quds occupée, ville où elle a grandi. Les forces du régime israélien ont tué un autre Palestinien à Quds occupée. Un jeune Palestinien a été tué mercredi 11 mai par des tirs de l'armée israélienne, a rapporté le ministère palestinien de la Santé. Les forces israéliennes ont ouvert le feu sur le Palestinien près de la mosquée Al-Aqsa. Le régime israélien prétend que le jeune Palestinien a été touché après avoir tenté de poignarder un officier israélien. L'attaque survient quelques heures seulement après qu'une journaliste de la chaîne Al Jazeera a été abattue par les forces israéliennes à Jenin. Et enfin, la Russie a imposé des sanctions à plus de 30 sociétés énergétiques européennes, américaines et singapouriennes en représailles aux mesures coercitives de l'Occident contre Moscou. Parmi les entreprises placées sur la liste noire figurent Gazprom Germania, une ancienne filiale du principal exportateur de gaz russe, Gazprom. Europol Gaz, propriétaire de la partie polonaise du gazoduc Yamal Europe, fait également l'objet des sanctions. Des restrictions imposées comprennent une interdiction de transaction et l'entrée dans les ports russes de navires liés aux entreprises concernées. La liste publiée par la Russie ne donne pas plus de détails sur les sanctions. En vertu d'un décret présidentiel publié plus tôt ce mois-ci, aucune entité russe n'est autorisée à conclure des accords avec les parties sanctionnées ou à remplir ses obligations prévues dans le cadre des accords existants. Les États-Unis et leurs alliés ont imposé plusieurs séries de sanctions contre Moscou en réponse à l'opération militaire russe en Ukraine. L'Iran arrête deux ressortissants européens pour fomenter l'insécurité et le chaos. Le ministère iranien du renseignement a annoncé avoir arrêté deux ressortissants européens qui avaient orchestré un complot visant à fomenter le chaos, le désordre social et l'insécurité dans tout le pays, soulignant l'implication croissante des agences d'espionnage européennes dans les activités anti-iraniennes. Dans un communiqué publié mercredi, le ministère iranien du renseignement a ajouté que des conspirateurs étrangers avaient envoyé deux de leurs agents chevronnés en Iran pour mettre en œuvre un projet hybride consistant en des méthodes douces et dures de guerre. Le communiqué n'a pas précisé la nationalité des deux personnes arrêtées, mais a souligné qu'ils avaient pour mission de former et d'organiser un réseau à l'intérieur de la République islamique d'Iran pour acquérir des connaissances sur les problèmes économiques des citoyens de la classe ouvrière et détourner leurs demandes et revendications en créant une vague destructrice de chaos et d'instabilité à l'intérieur de la République islamique d'Iran. Le ministère iranien du renseignement a également lancé un avertissement sévère aux conspirateurs étrangers et à leurs partisans tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, affirmant que ces deux Européens étaient étroitement surveillés par les unités du renseignement iranien depuis longtemps avant leur arrestation. Leur arrestation intervient alors que les relations de la République islamique d'Iran avec certains pays européens comme la Suède et la Belgique, ont été tendus à la suite de l'emprisonnement de diplomates iraniens. L'emprisonnement et le procès illégaux de Hamid Nouri, un ancien fonctionnaire de la justice iranienne, est l'un de ces cas qui tourne en dérision les normes occidentales en matière des droits de l'homme et met à nu leur hypocrisie. Nouri a été arrêté à l'aéroport de Stockholm en 2019 à son arrivée en Suède et a été détenu pendant plus de 2 ans. Il a été accusé d'avoir participé à l'exécution des membres du groupe terroriste anti-iranien Organisation Mujahedin et Khalq, OMK, en 1988. Une accusation que la République islamique d'Iran a rejetée comme fausse. La République islamique d'Iran considère la détention et le procès de Hamid Nouri, citoyen iranien, comme illégaux et exige sa libération immédiate, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, à son homologue suédoise la semaine dernière. À cet égard, la République islamique d'Iran a même convoqué plus tôt ce mois-ci l'ambassadeur de Suède à Téhéran pour protester contre l'emprisonnement de Nouri et son procès. Un autre cas concerne le diplomate iranien Assadollah Assadi, qui a été emprisonné en Belgique pour des accusations liées au terrorisme. Récemment, un tribunal belge l'a condamné à 20 ans de prison pour avoir comploté un attentat contre les membres de l'OMK. Mardi, le ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que la détention et le procès d'Assadi violaient la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques. Les médias occidentaux ont tenté de lier ces deux affaires au procès d'Ahmadreza Djalali, un résident suédois d'origine iranienne qui a été condamné en Iran pour espionnage au profit du régime israélien, qui a conduit à l'assassinat de deux scientifiques nucléaires iraniens. Lundi, le secrétaire du Haut Conseil iranien aux droits de l'homme, Kazem Gharibabadi, lors d'une interview accordée à la chaîne de télévision publique iranienne, a déclaré « Pourquoi la Suède prétend-elle être un défenseur des droits de l'homme, de la lutte contre le terrorisme et d'un monde de paix, de sécurité et de stabilité alors qu'elle accueille les groupes terroristes comme l'OMK ?»
Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition du débat en ce mercredi 11 mai 2022. Dans un discours de campagne électorale organisé dans la région du sud du Liban, mais aussi en banlieue sud de Beyrouth, le secrétaire général du Hezbollah libanais, Saïd Hassan Nasrallah, a critiqué certains partis politiques qui s'opposent en effet à l'arme du Hezbollah et qui prennent le désarmement du Hezbollah, alors que le régime sioniste, en effet, a continué de multiplier ses menaces contre le Liban. Saïd Hassan Nasrallah a qualifié l'arme du Hezbollah de carte la plus forte pour contrer le moindre agissement de l'entité sioniste qui continue en effet de mener des exercices militaires ces derniers jours. Saïd Hassan Nasrallah a également appelé les partisans du Hezbollah à se rendre massivement aux urnes le 15 mai pour protéger en effet la stratégie de résistance. Et il a souligné que le Hezbollah, en effet, et son arme était indispensable pour la protection, en effet, du Liban, mais aussi pour aider le gouvernement libanais à résoudre la crise économique prévalente dans le pays, en aidant le gouvernement à extraire, en effet, les ressources pétrolières et gazières offshore du Liban. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons analyser les principaux enjeux de ce discours électoral du secrétaire général du Hezbollah libanais et sa place et sa position, en effet, pour contrer les menaces de l'ennemi sioniste. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Le secrétaire général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, a prononcé un discours le lundi 9 mai dans le cadre des campagnes électorales organisées pour les deux villes du sud libanais, Tir et Nabatieh, et les villages alentours, appelant les Libanais à faire preuve d'une présence fervente aux urnes des élections législatives du 15 mai. Nasrallah a annoncé que les combattants du Hezbollah resteraient en état d'alerte pour écarter le moindre agissement du régime israélien. Les Libanais connaissent bien les partis qui souhaitent un désarmement de la résistance, a indiqué Sayed Hassan Nasrallah. Certains groupes politiques se sont focalisés sur l'arme de la résistance dans leur campagne électorale, comme si les soucis du peuple étaient sans importance pour eux. Or, les Libanais doivent savoir quels sont les partis qui souhaitent un désarmement de la résistance, et cela dans l'illusion de pouvoir se débarrasser du Hezbollah. Ces partis ont toujours négligé le sud libanais et les souffrances des habitants du sud. Hassan Nasrallah a déploré le fait que certains hommes politiques libanais ne s'aperçoivent pas qu'Israël est un ennemi qui convoite les ressources d'eau et de gaz du Liban. Le secrétaire général du Hezbollah a ajouté: ceux qui veulent un désarmement de la résistance négligent tous les acquis nationaux obtenus par cette dernière, dont la libération de tous les territoires occupés libanais. L'ennemi israélien avait occupé tout le territoire du sud libanais. La résistance a su les libérer entièrement et obtenir également la remise en liberté de tous les otages, de sorte que leur dignité soit assurée. À l'adresse du peuple et du gouvernement libanais, Nasrallah a tenu à dire qu'ils peuvent se sentir fiers d'une résistance qui empêche le forage du régime sioniste dans les eaux libanaises. La résistance est dans un état d'alerte et de préparation maximale, a également affirmé le secrétaire général du Hezbollah, qui, pour finir, s'est en ces termes adressé au régime sioniste: nous n'hésiterons un seul instant pour riposter à toute petite bêtise de ta part contre le Liban. Nous n'avons aucune peur de ta présence, ton armée ou tes exercices militaires. Nous avons la ferme conviction que tu es plus faible que la toile d'araignée.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité. Permettez-moi de vous présenter tout de suite nos invités pour cette émission. Nous sommes en ligne depuis Damas avec Maître Arnaud Develay, juriste international et analyste politique, et depuis Paris avec Madame Aïssa Armidani, analyste franco-syrienne des questions internationales. Madame Midani, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous, bonjour à votre invité et bonjour à toute l'équipe de Presse TV et tous les téléspectateurs. Et je vous remercie de l'invitation d'ailleurs.
Madame Midani, alors à quelques jours des élections législatives au Liban, le secrétaire général du Hezbollah libanais, Sayed Hassan Nasrallah, a prononcé deux discours importants dans la région du sud du Liban, mais aussi en banlieue sud de la capitale libanaise. Le temps fort du discours de Sayed Hassan Nasrallah, bien sûr l'arme du Hezbollah, les menaces de l'entité israélienne, et il a critiqué dans ce contexte les partis politiques qui prônent en quelque sorte le désarmement en effet du Hezbollah. Il a reproché à ces partis de ne pas considérer l'entité sioniste comme un ennemi, d'ignorer en effet la menace d'Israël. Pourquoi ces partis politiques, alors que le Liban se trouve toujours exposé aux menaces du régime de Tel Aviv, pourquoi ces partis politiques, en effet, continuent de jouer le jeu des ennemis en faisant du désarmement du Hezbollah en effet leur principal slogan de campagne électorale?
En fait, il faut connaître un petit peu le contexte actuel au Liban, en fait, où l'ambassadrice des États-Unis fait le tour de toutes les personnalités et tous les partis politiques qui les poussent à effectivement refusé le Hezbollah, a refusé les armes de la résistance en disant, en promettant à tout le monde, monts et merveilles, que de toute façon, si vous, vous écartez le Hezbollah et ses armes, nous allons vous donner de quoi vous permettre de surmonter la crise et de quoi, avec la Banque mondiale, nous allons pouvoir permettre le redéveloppement du Liban, etc. Donc ça, c'est un premier point dans le contexte. Le deuxième point dans le contexte même, il y a aussi l'Arabie saoudite qui alimente et qui encourage des partis comme le parti des forces libanaises de Samir Jaja, qui a toujours été un parti pro-israélien et qui a même en 2006 a joué avec les Israéliens pour montrer et est responsable des gros massacres de Sabra et Shatila aussi avec Sharon à l'époque. Donc il faut voir, il y a ces aspects, il y a aussi le fait que la même d'ailleurs Shia, l'ambassadrice des États-Unis, empêche effectivement qu'il y ait signature de tous les accords, de tous les, pas des accords, mais en fait des propositions de contrats qui ont été faites aussi bien par l'Iran que par la Chine, que par la Russie pour la reconstruction du port, pour effectivement la reconstruction même des forces énergétiques du Liban, etc. Ils n'ont jamais osé, osé signer ces propositions et des contrats, donc ni avec la Russie, ni avec l'Iran, ni avec la Chine, pour reconstruire le pays, parce qu'il y a une, effectivement une classe politique qui est dépendante des Américains, des Israéliens et surtout des Saoudiens aussi. Et l'ingérence, elle est très forte au niveau du Liban. Je voudrais rappeler quand même que le lendemain de l'explosion du port, Emmanuel Macron s'est dépêché de courir au Liban en disant bah, « Écoutez, il faudra, nous, on est prêts à vous aider, mais aidez-vous à nous aider, aidez-nous à vous aider. » Donc voilà, mais n'empêche, à ce moment-là, Macron avait bien reconnu la force de la résistance libanaise, mais après, alors ça se, il va aussi beaucoup plus sous l'influence américaine. La France cherche à se trouver, à remettre pied effectivement au Liban. Donc en fait, toutes ces forces extérieures qui jouent au Liban, qui ont quand même des cinquièmes colonnes, je dirais, à l'intérieur, malheureusement, donc joue à l'intérieur contre la résistance, alors que la réalité, c'est que la résistance libanaise et puis le Hezbollah ont toujours été le libérateur des territoires libanais qui ont été occupés par Israël, donc en 2000, en 2008, et ils ont bien défendu le Liban en 2006 malgré cette offensive sans précédent en fait de pas seulement d'Israël mais aidé par les Américains, l'OTAN qui ont sauvegardé quand même la souveraineté du Liban, qui ont libéré le sud du Liban en fait là. Donc les forces de Hezbollah et la résistance libanaise ont pu libérer toutes ces régions. Et puis aujourd'hui, les villages du sud, les habitants des villages du sud arrivent à vivre normalement, alors qu'ils avaient toujours, il y avait toujours des incursions israéliennes, il y avait toujours des bombardements israéliens. Donc, en fait, cette force de Hezbollah a fait respecter, je dirais, la souveraineté du Liban et l'intégrité de son territoire.
Merci infiniment pour ces précisions. Restez avec nous. On va tout de suite se rendre à Damas pour rejoindre Maître Arnaud Develet, juriste international, analyste politique. Maître Develet, bonjour. Merci d'être en ligne avec nous.
Oui, bonjour à vous, bonjour aux téléspectateurs et bonjour à Maître Midani.
Maître Develay, Madame Midani l'a rappelé, c'est le Hezbollah qui a brisé en quelque sorte le mythe d'invincibilité de l'entité sioniste, qui a libéré le sud du Liban, qui a protégé la souveraineté en effet libanaise. Pourquoi aujourd'hui, en effet, dans ce contexte électoral, certains tentent par des manœuvres différentes, en effet, d'écarter le Hezbollah de la scène politique et de priver le Liban de sa carte la plus forte face à l'entité israélienne.
Écoutez, la réponse est très simple, c'est que s'il ne s'agissait pas du Hezbollah, le Liban serait tombé depuis longtemps dans l'escarcelle des pays néocolonisateurs. Ces derniers se seraient emparés de ses ressources côtes, et on peut les Israéliens des pans substantiels. Maintenant une quarantaine d'années, et plus le temps passe, la garantie de la souveraineté. Chaque fois qu'il y a une cristallisation entre la première du 8 mars, l'Alliance, le Parti de la Résistance, ses alliés chrétiens, du président de la République, de l'autre côté, l'Alliance est un peu maintenant avec par Samir Jaja et puis
d'amis. Maître Develay, alors visiblement nous avons un souci de liaison, donc en attendant que justement ce problème technique soit résolu, permettez-moi de continuer l'émission avec Madame Midani. Madame Midani, vous êtes en ligne avec nous? Voilà, très bien. Madame Midani, dans son discours, le secrétaire général du Hezbollah libanais a souligné que la résistance resterait en état d'alerte maximale. Les combattants du Hezbollah libanais resteront en état d'alerte maximale tant que, en effet, les manœuvres militaires de l'entité sioniste se poursuivront. Donc, il paraît qu'aujourd'hui, le Hezbollah et la résistance, en effet, a imposé et continue d'imposer cette équation de dissuasion face aux menaces israéliennes.
Tout à fait, effectivement, c'est 2006 et jusqu'à maintenant, le Hezbollah a réussi à imposer cette équation, vous l'avez bien dit, que l'État d'Israël a commencé à la période où Cheikh Nasrallah est sur un pied, allez attendre ce qui va vous arriver. En fait, il y a effectivement une peur réelle État sioniste de cette résistance, qui est tout de suite avec le Liban, les Israéliens n'osent même plus être présents, à tel point qu'ils ont mannequins aussi dans leur voiture. Ils ont effectivement la résistance a imposé une nouvelle équation de dissuasion. En fait, que le renforcement du front de la résistance et de cette alliance avec la Syrie, l'Iran, Hezbollah en Irak et Ansarullah au Yémen et la résistance on fait que, en fait, ça n'est plus seulement frontière, mais sur l'ensemble, les Israéliens doivent se tenir à cœur sur l'ensemble des pays de l'axe de la résistance. Donc, le Hezbollah Effectivement, parce que l'Israël espérait à travers l'action contre la Syrie aussi année de violence et d'agression par terroristes imposés en Syrie, que la Syrie allait tomber. Or, en fait, Syrie, que l'axe de la résistance sera, comment dire, que à une année, l'année dernière, l'opération d'Al-Quds, puis on est à l'anniversaire de cette opération. Et on voit aussi que les Israéliens ont continuent à multiplier leurs agressions. Ce matin, ils ont envahi le camp de Jenin, mais la résistance palestinienne menace et de manière unitaire, je dirais, l'ensemble des organisations palestiniennes et le peuple palestinien aussi ont commencé à mener à des opérations de résistance contre donc cet État fantoche d'occupation israélien, ce qui fait que effectivement leur peur est très grande et donc ils activent leurs amis américains et leurs amis des pays de l'OTAN pour les soutenir et pour défendre justement cette sécurité de l'État fantoche d'Israël, de cette entité sioniste, ce qui fait que effectivement ils activent aussi leur cinquième colonne à l'intérieur, mais contre donc l'arme de la résistance.
Merci infiniment, Madame Midani. Madame Midani, alors, l'enjeu énergétique du discours de Saïd Hassan Nasrallah, parce que, comme vous savez, alors, le Liban se trouve face à une grave crise économique. Donc là, Saïd Hassan Nasrallah a rassuré que le Hezbollah pourrait aider le gouvernement libanais à extraire les ressources gazières et pétrolières offshore et même protéger, bien sûr, les ressources nationales et territoriales du Liban. Donc là aussi, il y a un fort enjeu énergétique au moment où le Liban se trouve confronté face à une grave crise économique.
Tout à fait. Effectivement, le Liban a de grandes richesses aussi gazières au sein de la Méditerranée, donc face à ses côtes. Et en fait, Israël vise effectivement ces richesses et vraiment, il vise aussi la possibilité de les exploiter à la place à se les accaparer. Et en fait, ceci aussi à travers un affaiblissement de l'État et de la défense et de la résistance libanaise, en fait. Donc, en plus, il faudra resituer ça dans le contexte mondial où les États-Unis mettent des embargos sur la Russie aussi et sur l'Iran et sur tous les pays producteurs de pétrole et de gaz et en même temps ils visent donc de s'accaparer par le biais des Israéliens en fait s'accaparer les richesses du Liban mais aussi de la Syrie. D'ailleurs je voudrais rappeler que dans la mer aussi et dans les eaux dans les eaux territoriales syriennes aussi, il y a une grande richesse en puits de pétrole et de gaz. Et puis qu'aujourd'hui, les Américains occupent le nord-est de la Syrie, qui est aussi riche en pétrole, et qu'aujourd'hui, ils pillent ce pétrole et ils en privent la population en Syrie. Ça fait partie de l'ensemble du plan stratégique d'utilisation des ressources mondiales pour les pays impérialistes et en privant les peuples de leurs ressources. Et en fait, donc l'arme de la résistance ou les armes de la résistance libanaise et palestinienne et de l'axe de la résistance les empêchent de faire ça, ce qui fait effectivement ils se déchaînent sur tous les axes, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Contre cette résistance pour pouvoir arriver à leur fin qui est d'exploiter, de s'approprier toutes les richesses du Liban, de la Syrie, de l'ensemble de la région.
Et une toute dernière question, Madame Bidani. Il nous reste 2 minutes, justement, toujours en référence au discours de Seyyed Hassan Nasrallah. Il a affirmé que le Hezbollah était prêt à discuter, en effet, de la stratégie de défense nationale, et que le Hezbollah, que la résistance, faisait partie intégrante, justement, de cette stratégie nationale. Donc, là aussi, c'est un appel. C'est réitérer, en quelque sorte, l'appel du Hezbollah à l'unité nationale face aux menaces, en effet, extérieures et en l'occurrence aux menaces israéliennes.
Tout à fait. Je pense qu'il y a eu quand même un accord important entre le parti qui est au pouvoir de Michel Aoun et la résistance et le Hezbollah, d'une part. Hier, en réponse, je dirais, et en réaction, le parti de Nabil Berri, qui est le responsable du Parlement, le chef du Parlement libanais, a fait aussi un discours où ils appellent à la résistance, où tous appellent effectivement, et le Nasrallah appelle à un front et à une discussion, à mettre en place une politique nationale, effectivement, de résistance, d'appropriation des richesses nationales, de défense de ces richesses, et puis un plan pour faire le développement du pays, effectivement, en s'appuyant sur ces richesses, ce qui fait que c'est important. Puisque aujourd'hui, c'est une concertation, il appelle à une concertation nationale, je dirais. Bien sûr, il y a des partis qui n'accepteront jamais, puisqu'ils sont quand même à l'extérieur, pas à l'extérieur, mais qui sont liés, effectivement,
merci, Madame Bidani,
à Israël et aux Américains. Mais ils seront toujours là pour mettre du trouble, en fait, dans le pays, quoi.
Madame Aïssa Armidani, analyste franco-syrien des questions internationales depuis Paris, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation, d'avoir apporté ces éclairages à cette émission. Je remercie également Maître Arnaud Develet, juriste international, d'avoir participé à cette émission. Malheureusement, pour cause du problème technique, on a été coupé avec Maître Develet. Excusez-nous pour ce problème. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.
De l'éloquence est le plus célèbre recueil de sermons, lettres, exégèses et récits attribués à l'imam Ali béni soit-il. Il a été recueilli par Sharif Razi au Xe siècle. Connu pour son contenu éloquent, il est considéré comme un chef-d'œuvre de la littérature dans l'islam chiite, après le Coran et les hadiths prophétiques. Cette première édition dédiée à la voix de l'éloquence, nous vous présentons une maxime du successeur du prophète, premier imam des musulmans, Imam Ali béni soit-il. Et quand les troubles et les séditions s'installent, soit comme un chamblon mâle de 2 ans. Il n'a pas d'odo, de monture, ni d'autre rayon pour qu'on puisse le traire. Cette maxime de l'imam Ali béni soit-il indique que quand les troubles et des séditions dominent la société des croyants, il serait souvent très difficile de distinguer le bien du mal, en raison de l'incertitude qui s'empare de l'espace social. Dans l'obscurité des troubles et des séditions, le vénéré Imam Ali, béni soit-il, dit aux croyants de ne pas prendre hâtivement des positions douteuses. L'image du chamblon mâle de 2 ans, incapable de supporter le poids d'un homme sur son dos et incapable de se faire traire, renvoie en réalité à cette position sage et calculée de l'individu qui se place au-dessus de la mêlée en attendant que la situation devienne favorable à la distinction entre le bien et le mal, sans permettre aux autres de le traîner dans l'erreur, l'égarement et la tromperie. Dans le sermon 50 de la voix de l'éloquence, le vénéré Imam Ali, béni soit-il, souligne que les troubles et les séditions trouvent leurs origines dans la soumission au désir charnel. Sur le plan social, ces troubles se manifestent aussi sous forme de rivalité de 2 ou de plusieurs groupes pour s'emparer du pouvoir. La rivalité ne signifierait pas nécessairement que dans ce conflit de pouvoir, un camp représente le bien et l'autre le mal. Il arrive très souvent que les 2 camps, qui se querellent, présentent chacun un aspect du mal. C'est dans une telle situation qu'il est souvent très difficile de juger correctement la situation. Le vénéré Imam Ali, béni soit-il, appelle donc les membres de la communauté des croyants à ne pas permettre aux fauteurs de troubles de les traîner directement ou indirectement dans les affaires indésirables. Dans l'histoire de l'islam, ces troubles, appelés fitna, étaient nombreux. Les saints imams chiites et leurs proches compagnons s'éloignaient toujours de ces troubles, étant donné le danger de ces troubles pour la communauté des musulmans. À titre d'exemple, nous pouvons citer ici les troubles dus aux guerres successives entre les Omeyyades et les Zobéirides. Abdallah ben Zubayr, qui était lui-même un ennemi de l'imam Ali, béni soit-il, se révolta plus tard contre les Omeyyades sous prétexte de venger le martyr du vénéré imam Hussein, béni soit-il, fils de l'imam Ali et 3e imam des chiites, pour se proclamer calife. La guerre s'éclata entre les Omeyyades et les gens qui s'étaient réunis autour d'Abdallah ben Zubayr. Les versets 9 et 10 de la sourate 49 du noble Coran disent « Si 2 groupes de croyants se combattent, faites la conciliation entre eux. Si l'un d'eux se rebelle contre l'autre, combattez le groupe qui se rebelle, jusqu'à ce qu'il se conforme à l'ordre de Dieu. Ensuite, s'il s'y conforme, réconciliez-les avec justice et soyez équitables. » Car Dieu aime les équitables. Les croyants ne sont que des frères. établissez la concorde entre vos frères et craignez Dieu, afin qu'on vous fasse miséricorde. »
Thank you.